Bonjour.
Bonjour.
Visage connu, voix connue. Ça va, on se reconnaît encore quelques-uns. Hein? Le temps passe, c'est vrai. Je m'en vais vous préparer une place. C'est l'ascension. Cette histoire de place, elle est extraordinaire. Toute notre vie, hein, ici sur Terre, nous allons travailler, nous allons souffrir, nous allons autour de cette idée de place. Être à la bonne place. D'ailleurs, le royaume de Dieu, quand il nous est présenté dans l'Évangile comme l'espérance que nous portons, nous est présenté comme un repas auquel nous soyons, un bon repas auquel nous soyons à la bonne place. Les deux étant nécessaires. Parce que si vous êtes invité à un bon repas et qu'on vous met de votre belle-mère, le repas, qui s'était bien amené.
Tu verras encore, mais.
Allez, va. Elle est dans la salle, ta belle-mère. Bon, vous avez compris. Il y a beaucoup de souffrance à ne pas être à sa place. Mais ce n'est pas ce que je voulais parler ce matin. Ça m'a parlé quand on parle d'identité. Je suis venu pour 3 jours, puis là je repars à Lille, puisqu'on a un congrès baptiste à Lille, à Roubaix, donc de la Fédération baptiste française, et je dois y intervenir encore ce soir. Ça me permet d'être avec vous ce matin, et puis là aussi, un petit peu. Voilà. Notre place dans l'histoire, non seulement notre place, bon repas, mais notre place dans l'histoire. J'aimerais parler de ça quand on va parler de l'identité. Le chrétien a beaucoup de peine à comprendre sa place dans le sens de l'histoire. Chaque époque a dû construire ce qui lui était propre dans la construction commencée avec l'avenue de Jésus, d'accord, la construction du sujet. Si le christianisme a apporté 2 choses dans l'humanité, vraiment spécifiques, je ne sais pas lesquels vous mettriez, mais les philosophes et les théologiens sont d'accord là-dessus. Il y a amené 2 choses au christianisme, totalement nouvelles. Mais on a tellement entendu qu'on ne se rappelle plus que ces nouvelles. Un, ces choses n'étaient pas avant. Un, c'est l'espérance. Pour la première fois, on apporte une espérance aux hommes. Et la deuxième chose qu'il a apportée, c'est la notion de sujet, de l'individu. Le salut va devenir personnel. La résurrection sera personnelle. La conversion sera personnelle. D'accord ? Donc, ces 2 notions fondamentales, nouvelles dans l'humanité, c'est ça, c'est l'espérance et c'est l'individu, le sujet, comme cela. Et c'est au cours des temps, ces 2 histoires, ces 2 notions-là, vont devoir se construire. L'histoire ne repasse pas les plats, comme on dit. L'histoire n'est pas un cycle, on n'est pas des bouddhistes, on est chrétien. Il y a un commencement et une fin dans l'histoire. Donc, il y a une évolution des choses. Il y a une construction des choses. Et quand la pluie tombe, elle fait pousser les bonnes et les mauvaises herbes aussi, pas que les bonnes. Dans mon jardin, c'est comme ça. Les deux. Et les disciples avaient cette idée qu'il fallait enlever les mauvaises herbes pour laisser pousser que les bonnes. Comme c'était le problème de la pluie, d'avoir fait pousser les mauvaises herbes. L'histoire, notre place dans l'histoire. D'accord ? Donc, ce monde qui se développe, chaque génération doit construire quelque chose. Si on prend le temps de la réforme, je vois qu'il y a une croix de Nantes ici, je me sens un peu chez moi, si vous êtes dans les Cévennes, vous verrez, toute ma famille là-bas qui est marquée quelque part, mais le désert, si vous y allez, les jeunes, là, bon. Donc, ça a été le temps du salut, le temps, du salut individuel, ramené dans l'histoire, on avait un petit peu oublié. Donc, je ne vais pas vous faire des histoires comme ça, mais en parlant de l'identité, il est essentiel qu'on comprenne à quel moment nous vivons, non pas dans les temps eschatologiques, le retour de Jésus, il a commencé avec la venue de Jésus, entre parenthèses, mais qu'est-ce qui se construit aujourd'hui? Qu'est-ce qui se construit dans le cœur de l'homme, chacun d'entre nous aujourd'hui, pour que nous devenions sujet? Où l'être humain, aujourd'hui, va tirer sa substance pour se construire en tant que sujet, qui est commun à nous tous, à une époque donnée. On revient à la conférence. On continuera de parler de ça. Ce matin, c'est une introduction que je veux faire. Hein. Il me semble que je voulais donner une photo, un peu comme si on mettait le satellite, là qu'on regarde une photo, mais je ne me suis pas présenté. C'est pas grave. Oui, d'accord. Vous lirez les livres, vous verrez comme ça. Donc une photo un petit peu, non pas de notre place dans l'histoire, ça je le ferai pendant les conférences et le travail qu'on aura ensemble samedi, mais une photo pour nous dire qu'est-ce qui, tout au long de notre vie, sous des formes différentes, va se développer, comme les racines et la plante. Je sais pas, on a une émission de télévision en France qui s'appelle « Les racines et les ailes ». Je ne sais pas si vous captez un peu ce qui se passe de l'autre côté. Hein. Ça donne des idées pour les vacances. Hein. À chaque fois qu'ils ont fini, je vais à les vacances là, comme je me dis. Quoi. Hein. Mais bon, hein. Bon, dans les racines et les ailes. C'est-à-dire, nous construisons, par étapes, on verra, hein, mais nous construisons à peu près toujours la même chose sous des formes différentes. Sous des formes différentes. Et il y a quatre choses que nous construisons, qui sont les quatre, je dirais, racines de notre identité de chrétien, mais elles vont se construire, encore une fois je le dis, hein, sous des formes différentes de notre vie. Hein. On ne peut pas que répéter à 5 ans, à 6 ans, à 8 ans, hein, à 40 ans, les mêmes choses. C'est la même histoire, mais construite, mais dans des formes différentes. Nous avons deux racines culturelles en Europe. Hein. Je parle en Europe, excusez-moi, hein. Je suis européen. En Europe, les racines grecques et les racines judéo-chrétiennes. Ils ne sont pas du tout pareils. Hein? Mais dans notre culture, elles sont assez mélangées. Et on a beaucoup de peine, hein, à les extirper comme ça un petit peu. Même dans notre lecture de l'Évangile, nous les mélangeons un petit peu. Quoi, hein? Ces deux racines-là. Et mon image, c'est de prendre la racine grecque à travers un homme qu'on connaît, qui n'est pas dans la Bible, bien sûr, hein, et qui symbolise ça, et qui nous influence parce que c'est nos racines culturelles aussi. C'est Ulysse. Vous ne le cherchez pas dans la Bible, il n'y est pas. Hein, d'accord, hein. Si vous allez en Sicile, il y est. Sicile, on sait que vous vous êtes arrêté. Hein, d'accord. Bon, Ulysse. Ulysse, c'est un homme qui fait un voyage. L'histoire, hein, bien sûr. Hein, d'accord. Et qui symbolise la manière humaine de voyager. C'est-à-dire qu'il part poussé par les événements, poussé par l'histoire, je veux dire, poussé par les situations qui sont autour de lui, il ne décide jamais Ulysse. C'est pas lui qui décide. Hein, c'est la guerre de Troie, mais je ne crois pas que l'histoire. Hein, hein, il est poussé par les événements. Et à chaque événement, il doit se battre contre lui-même et contre les événements pour arriver à trouver un petit peu qui il est, dans la quête de lui-même. Et il va tourner comme ça pendant des années, il va passer en Sicile, hein, d'accord, il va aller partout, et à la fin de son voyage, à un moment donné, d'accord, quand là, il est dans la caverne, hein, dans le noir de lui-même, et là, on lui demande qui il est. Et la réponse, c'est personne. Vous vous rappelez de ça à l'école, hein, je vous fais une petite révision. Là. Je suis personne. Il va revenir chez lui, sa femme ne va pas le reconnaître, hein, d'accord, ni son chien, ni cette même personne, d'accord, hein. Voilà, ni son fils, on va le reconnaître. Il finit son voyage en étant personne, pas reconnu, mendiant. Il a fait un tour pour rien. Il a fait un tour pour rien. Et puis, enfin, je vous ai résumé ça comme ça. Quoi. Hein? Il est resté toujours cette idée que pour arriver à être lui-même, pour se trouver lui-même, il fallait qu'il se batte contre lui-même. Dans les droits de Messine, hein, il va se battre contre les sirènes. On va appeler de ça. D'accord ? Il va s'attacher au mât, parce qu'il faut se battre contre les sens, se battre contre la chair, se battre contre la sensualité. Il est tout le temps en train de se battre contre lui-même. Résultat, il est personne. Ça vous dit rien, Ulysse ? Des fois, j'ai peur que nous ayons une racine Ulysse qui pousse très fort en nous, et que nous l'ayons un petit peu, j'allais dire, entre guillemets, converti au christianisme. Or, Ulysse ne se convertit pas au christianisme. On a une autre histoire d'un autre homme qui lui aussi va faire un voyage dans la Bible, et c'est Abraham. Vous vous rappelez d'Abraham, celui-là. Un tout autre voyage. Et c'est la racine, je dirais, hein, que le Seigneur entend développer dans nos vies. Mais la première racine en nous, c'est une racine culturelle. Elle n'est pas chrétienne. Et la seconde racine, qui doit prendre la place de la première, si je peux parler comme ça, c'est celle hein, imagée par Abraham, le voyage d'Abraham. Abraham part faire un voyage aussi, mais tout à fait différent. Tout à fait différent. Et entre parenthèses, si Ulysse ne finit personne, Abraham va changer de nom aussi. Vous retrouvez les mêmes ingrédients dans les deux voyages. Il va changer de nom, il va devenir de Abraham, il va devenir Abraham, vous rappelez ça. Et vous rappelez que ceux qui changent de nom hein, en Abraham, hein, au moment du Morija, c'est le cœur, la lettre, qui est le cœur, un tableau que vous pouvez faire, la lettre qui est au cœur du mot Yahvé, qui se met du cœur de Yahvé dans le cœur d'Abraham. Et Abraham devient Abraham, parce que on met dans son lit le cœur de Dieu. Ça vous dit rien, ça hein? Donc, l'ami de Dieu va devenir. L'ami de Dieu. Parce qu'il y a une greffe du cœur de Dieu sur Abraham. C'est ça le changement qu'il y aura pour lui, fondamental. Il n'est plus Abraham, le Mésopotamien, qui fuit, qui part, mais il est Abraham, qui s'est trouvé lui-même. Alors, comment se passe pour lui, cette histoire hein? Je crois que c'est une composante importante de notre vie, cette histoire de voyage d'Abraham. Comme cela. Abraham doit sortir hein, de son pays. Je vois la pendule, ça passe très vite. Hein. Abraham, elle avance là-bas.
Non. Oui. C'est là que je vois
qu'il y a un. Oui, ça c'est le patron, c'est l'ouvrier. Abraham est appelé par Dieu à un voyage. Il n'est pas un adolescent, il a 75 ans. Enfin, il a encore le temps devant lui à l'époque, il y a moins de pollution. D'accord ? Donc, il est appelé à un voyage. Et ce que Dieu va lui dire, le mot que Dieu va lui dire pour l'appeler à ce voyage, c'est le mot qu'il nous dit à chacun d'entre nous pour nous appeler à ce voyage, et qui n'est pas de lutter contre nous-mêmes, mais qui est de nous mettre en marche dans une autre direction que nous. Donc, ce mot, c'est l'erlera, vous savez. D'accord ? Il est employé deux fois dans la Bible. Ici, pour parler du couple en même temps, donc ce mot se traduit comme ça, depuis le Moyen-Âge, on traduit comme ça, hein, les rabbins le traduisaient comme ça, Chouraki le traduit comme ça, ainsi de suite, c'est « va, sors, va, pour toi, vers toi ». C'est pas « va visiter du pays, puis tu reviendras à ton pays, comme fait Ulysse, hein, d'accord ?» Mais c'est « tu vas, vers toi, pour toi ». Mets-toi en marche vers toi-même. Il va symboliser cette marche vers lui-même à travers une marche physique. Hein, un peu comme pèlerinage, je dirais. Hein, d'accord ? Mais c'est aller vers lui-même. Nous devons nous rappeler une chose essentielle que Jésus a dit, c'est que nous sommes l'œuvre de Dieu. Des fois, quand on parle de l'œuvre de Dieu, il est toujours ailleurs qu'en moi. Hein, à la mission, je crois. L'œuvre de Dieu, c'est moi. L'œuvre de Dieu à laquelle je suis engagé, c'est ma vie. C'est mon histoire. Je suis le champ de Dieu, et chacun pour lui-même, et tous ensemble. Travailler pour Dieu, c'est pas venir faire le ménage ici. Tu veux utiliser un club de gym, venez faire le ménage pareil. Pour que les choses apprennent, venez faire la gym. Et vous donnez pareil hein, à la cotisation pour payer le chauffage et les ventilateurs quand il fait chaud. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas extérieure à vous, elle est en vous. L'œuvre de Dieu est dans mon cœur. Alors bien sûr, j'ai besoin de frères et de sœurs, hein, c'est plus à garde dans les coussins sur la chaise, donc il faut payer un petit peu pour ça. Hein. C'est pas ça. L'œuvre de Dieu, elle est en vous. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Et je suis responsable de cette œuvre de Dieu en moi, et chacun pour lui-même. C'est ce que j'appelle devenir sujet de Dieu. Abraham est appelé, et c'est le premier homme qui est appelé dans la Bible, à se construire de cette manière-là, à aller vers lui en sortant de ce qu'il avait construit jusque-là, de ses racines. Les racines d'Abraham, elles étaient comme les nôtres, c'était pas terrible. Les Mésopotamiens, ils étaient assez, hein, on va dire, problématiques par rapport à la religion. Hein. Nous avons nos racines, et nous devons sortir de ces racines, d'accord, pour aller vers nous-mêmes, faire l'œuvre de Dieu en nous, qui est de nous rencontrer nous-mêmes. parce que nous sommes le champ de Dieu. Pierre a dû quitter sa barque pour aller quitter ses certitudes et ses persécutions. Et Matthieu a quitté son péage. Qu'est-ce que je quitte? Non pas, encore une fois, renoncer, je ne veux pas ça. L'Église est appelée ceux qui sont sortis de l'Ecclésia. Ceux qui sont sortis, l'ensemble des gens qui ont commencé ce voyage vers eux-mêmes, qui ont probablement entendu l'appel de Dieu d'aller vers eux-mêmes. Alors, il y a plusieurs façons d'entendre l'appel de Dieu. Il y a plusieurs façons dans la vie. Ce n'est pas toujours par la radio le matin qu'on l'entend. Il y a trois façons dans la vie d'entendre l'appel de Dieu pour se mettre en marche. Seulement, le problème, c'est qu'on en présente un plus que les autres, parce qu'il est plus spectaculaire. Je vais les illustrer par trois personnes qu'on trouve dans la Bible, et dans le Nouveau Testament en plus. Le premier, c'est Paul. Paul, on sait comment il s'est converti. Tombe de sa monture, on ne sait pas si c'est un cheval ou un canasson, je ne sais pas, c'est peut-être un âne, un bourricot, peut-être un mulet. Bon. En tout cas, il tombe, et là, d'un coup, il est 180 degrés, converti, il part persécuteur, il rentre témoigneur. Bon, il n'a pas, c'est beau laver les bidons, quoi, il sent encore un peu l'essence, il n'a pas tout compris tout de suite, Paul non plus, il a fallu le temps pour qu'il comprenne. 14 ans, il a fallu. 14 ans. Pour qu'il comprenne ce qui s'était passé ce jour-là. Mais il y a un changement radical. Cet appel a complètement changé sa vie. Et nous avons parmi nous des gens qui sont comme ça, qui ont été changés, comme ça, en un instant, par l'appel. Puis on a des gens comme Pierre, qui je pense que c'est un chrétien. Même si tu n'es pas toujours d'accord avec Paul. Mais bon, pas d'accord avec tout le monde. Pierre, lui, comment il suit Jésus? Il n'a pas une conversion comme Paul. Déjà, Jésus le connaît parce qu'il est dans son village. Puis il a suivi Jean-Baptiste, tout ça. Pierre, c'est l'image, vous savez, d'un feu qui est avec des braises et puis beaucoup de cendres dessus, qui est presque mort, qui est là comme ça. Puis vous poussez les cendres, vous jetez des brindilles dessus, vous jetez du bois dessus sec, vous soufflez un coup et le feu repart. Ça, c'est Pierre, qui, comme ça, va suivre Jésus. Puis bon. Et vous êtes beaucoup de gens comme ça, comme Pierre, qui, pendant leur enfance, ont fait une démarche spirituelle. Se sont mis en marche, puis sont arrêtés. Et puis le feu n'est pas mort. Il y a des braises par là-dessous, mais il faut bien les chercher, ces braises-là. Ça peut être dans une église, dans une autre, dans un catéchisme ici ou ailleurs, d'accord. Et puis, arrivé à la quarantaine, cinquantaine, par là, peut-être plus tard, ils ont été renouvelés dans leur vie spirituelle. Ils ont lu un livre, ils ont été à une rencontre, ils ont été, puis les cendres sont un peu passées, on a poussé les cendres, on a jeté un peu de bois dessus, et le feu est reparti, merveilleux. C'est pas comme Paul, c'est une accélération d'un processus déjà en marche. Puis on a un troisième, qui lui nous pose un sérieux problème. Était-il chrétien? Timothée. Alors, si tu n'es pas chrétien, ça vous pose un problème plus grand. Parce que Paul l'a quand même envoyé régler des problèmes et comme vraiment un envoyé du Seigneur. Comment il s'est converti, Timothée? Comment il s'est mis en marche, Timothée? Et là, il y en a beaucoup comme lui, d'entre nous qui ressemblent à Timothée, mais qui n'osent pas le dire. Parce que Timothée, c'est sa grand-mère. Me dit Paul, il s'est mis en marche. Puis sa mère, et puis lui. Timothée n'a jamais été comme Paul à cheval et a tombé de cheval. Il est entré dans une continuité. Bien sûr qu'il a dû, à un moment donné, dire qu'il était d'accord avec sa grand-mère et sa mère. Mais on a beaucoup dans nos églises de personnes qui, comme Timothée, n'ont jamais tué personne, sont jamais drogués, n'ont jamais violé personne. Ils ont été à l'école du dimanche, au catéchisme, au groupe de jeunes, au camp de jeunes. Et là, ils ont adhéré, Comme Timothée. C'est devenu leur histoire, c'est vrai, et ils sont prêts à mourir pour ça. Mais il n'y a pas eu une rupture comme Paul. Alors ils font des complexes, comme Timothée. Il faut vous dire, quand Paul témoignait, que Timothée témoignait, je ne sais pas qui écoutait le plus. Vous voyez Paul qui témoigne? La rupture, voilà, il raconte son histoire. D'ailleurs, quand il raconte, des fois, il fait des variantes. Hein, vous savez quoi. D'accord, il raconte son histoire. Hein, formidable, alléluia. Dieu est tout puissant. Dieu fait des merveilles. Tout le monde applaudit. Puis Timothée se lève, comme moi, comme vous, beaucoup. Et dit, voilà. Voilà. Ma mère était chrétienne. Ma grand-mère était chrétienne. Sûrement qu'avant aussi, j'étais chrétien. Et moi, je suis chrétien. Vous voyez l'enthousiasme de l'église et de la salle. Hein, et le livre qu'on va écrire sur Timothée. Hein, et les merveilles, pardon, les merveilles de la foi de Timothée. Je dis ça pourquoi? Parce que nos racines culturelles grecques, hein, Ulysse toujours, elles aiment Paul. Parce que c'est spectaculaire. Parce que ça démontre, rien du tout entre parenthèses, hein, mais ça démontre. Alors que Timothée, il est dans la construction hein, sérieuse et travaillée, je dirais, hein, de la foi en lui, de l'évangile en lui. Il y a beaucoup de Timothée parmi nous qui se font des complexes parce qu'ils n'ont tué personne. Hein, parce qu'ils ne sont pas drogués, parce qu'ils ont violé personne. Hein, ils sont de braves chrétiens depuis toujours, j'ai envie de dire. Bien sûr qu'on a adhéré, bien sûr qu'on a dit oui. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'invente. Hein? Puisqu'il faut trouver une rupture. On en trouve une. À 4 ans, j'ai volé un sucre d'orge. Hein? Puis je me suis senti coupable. Alors je demandais pardon au Seigneur, je me suis converti. Je crois que c'est 5 ans. Hein? Mais c'est pas ça la conversion. Ça, c'est la culpabilité, c'est tout, hein. D'accord? D'accord? C'est qu'est-ce que je confesse? Quelle est ma confession de foi? C'est ça qui m'intéresse. C'est, la mise en marche est secondaire. Ce qui compte, c'est la confession de foi. Qu'est-ce que je confesse aujourd'hui? Dans cette marche, hein, de la construction de Dieu en moi. On l'a chanté, hein, les confessions de foi. C'est ça qui est important. Donc, Abraham est appelé. Hein? Il est appelé à quitter. Et que ce soit Timothée, Paul ou Pierre, ils vont devoir faire le même chemin. Et je me rends compte en regardant un peu leur histoire, que celui qui a eu le plus de difficultés à quitter comme Abraham, c'est Paul. Habitué aux ruptures brusques, il n'a pas compris, enfin plus tard il me dira qu'il a compris un petit peu, au début il n'a pas compris qu'il fallait travailler à sortir pour entrer dans le royaume, hein, pour entrer dans cette construction que Dieu fait de nous, hein, de sujets. Il doit quitter trois choses. Il doit quitter Abraham, alors c'est symbolique, bien sûr, hein, bien sûr. Hein. Vous n'avez pas tous en France, hein, comme moi, hein. Donc il doit quitter son pays. Son pays. Ceci dit, hein, on n'a pas d'en parler ce matin, quoi, mais si vous voulez, je suis d'habitude, on en parlera. La souffrance de quitter un pays, ce que c'est dans l'identité, la culpabilité qui va avec. Donc, il doit quitter son pays, c'est-à-dire la vision statique, la vision dans laquelle il est enfermé de lui-même, de sa culture. Hein? Et Abraham est dans une culture, je dis, qui n'est pas la meilleure. Abraham doit quitter Haran, hein, son pays. Hein? Il doit, parce que là, dans ce carcan dans lequel il est, il ne peut pas se construire. Il faut qu'il se construise hors les murs. Hors les murs de la ville dans laquelle il est, comme ça. Hein? Il doit devenir un voyageur. Et ce qui compte dans ce voyage d'Abraham, qui est le mien, qui est le vôtre, hein, de quitter nos racines, hein, culturelles un peu des fois, pour entrer dans cette vision du christianisme, de cette construction, ce qui compte, ce n'est pas la distance qu'on fait, hein, c'est la direction dans laquelle on marche. Il y en a qui marchent plus vite que d'autres, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est la direction vers laquelle je marche. Et non pas les kilomètres que je parcours me comparant aux autres. Il doit quitter sa famille, c'est-à-dire l'héritage culturel, familial dans lequel il est, et qui des fois l'empêche, on n'a pas le temps de dire ce matin encore une fois, mais cet héritage qui lui donne une image de lui, qui n'est pas la bonne de lui. Parce que l'image que m'a donnée ma famille de moi n'est pas celle que Dieu a de moi. Elle est loin. Mes parents ne sont pas Dieu, même si quand je suis petit, je le crois. Hein? Après, je me rends compte que ce n'est pas tout à fait juste. Donc, quitter l'image que que j'ai reçu de moi la place pour entrer dans l'image que Dieu a de moi. Devenir, j'ai dit tout à l'heure, le champ de Dieu. C'est pour ça qu'un des commandements, une des paroles de vie de Moïse sera « Honore ton père et ta mère », qu'on a complètement perverti dans notre culture grecque. On a confondu « honorer » et « vénérer ». Ça ressemble pareil dans notre inconscient, ça sonne pareil. Hein? Mais « honorer » dans le texte biblique veut dire toute autre chose. Ça veut dire « soupeser ». Donner le juste poids. Donner le juste poids. Autrement dit, voir ce qui est bon, et voir ce qui n'est pas bon, et voir ce qui est mauvais, et voir ce qui est nocif, dans ce que j'ai reçu de mes parents, dans l'héritage que j'ai reçu de mes parents, de moi, de l'image que j'ai de moi. Ils ont pu me donner des bonnes choses, et comme les enfants veulent toujours sauver les parents, il me faudra du temps pour comprendre que ce n'est pas toujours ce qu'il fallait me donner. Et donc c'est pour ça que la Bible m'invite, et Jésus le reprendra, « Honore ton père et ta mère. Hein? » Et d'ailleurs, entre parenthèses, il dit « père et mère », il dit « pas parent ». Très important. Parce que les parents, ça n'existe pas. Mais le père est quelqu'un, et quand vous pensez à votre père et à votre mère, vous ne pensez pas à la même chose. Quand vous pensez à vos parents. Qu'est-ce que j'ai reçu de mon père? Je vais devoir, comme Abraham, quitter, prendre de l'héritage sans prendre de l'hérédité. Et c'est à moi, dans mon voyage vers moi-même, comme Abraham, de faire ce tri. Qu'est-ce qui était bon, que je peux garder, et qu'est-ce qui m'a empêché de vivre, et qui peut m'empêcher encore de vivre, et que je dois rendre à ceux qui me l'ont donné, et qui n'est pas juste. Il faut toujours rendre les mensonges aux menteurs. Toujours. Il ne faut pas les garder avec soi. Vous voyez que ce n'est pas ce qu'on nous a appris. On nous a appris comme Ulysse, tais-toi. Fais ton petit tour, meurs en faisant ton tour, mais dis rien. Et nous devons construire en nous. Donc quitte ta famille, quitte cet héritage. Soupèse. Hein, tu as le droit d'inventaire, même le devoir d'inventaire. Tu ne peux pas être l'œuvre de Dieu, toi, comme Dieu te voit, à ta place, hein, dans tes capacités d'ons, si tu n'as pas fait ce tri d'abord en toi. Je vous prépare une place au ciel. Mais sur la terre, on n'est pas des déplacés encore une fois. On a une place, une histoire. Et pour que j'occupe ma place et que je sois dans mon histoire, dans l'histoire du Seigneur, et que je sois vraiment ce champ de Dieu, ben j'ai besoin de me libérer. De me libérer moi-même. Paul dira, il y a un problème très fort pour ça, il parle de travailler à. Catargueo, il dit. Hein. D'accord ? Quand j'étais comme un enfant, je pensais comme un enfant, devenu adulte, je pense comme un adulte. Vous vous rappelez ça, ce texte de Paul. Hein. Et il parle de ce travail en nous, de quitter, de sortir, de faire rendre inopérant en nous ce qui nous empêche d'aller dans cette marche vers nous-mêmes. Il y a beaucoup de souffrance. Et la troisième chose, c'est la maison de ton père, ton pays, ta famille et la maison de ton père. Autrement dit, arrête. Quand tu vas vers toi, quand tu te construis toi, alors, c'est paradoxal, je veux dire, tu n'es plus le fils de ton père. Vous savez que c'est j'expérience, être ou ne pas être, hein, le fils de son père. Hein. C'est-à-dire, être moi-même quelqu'un qui va être capable, non pas seulement de faire le tri par rapport à son père, ce qu'il a reçu, mais d'être père moi-même, c'est-à-dire d'appeler d'autres à devenir eux-mêmes. Vite la maison de ton père. Deviens père toi-même. Et vous savez que le rôle du père, c'est d'appeler, à sortir des coquilles, à sortir de toutes ces choses-là. Deviens père. Quitte ce rôle d'enfant. Hein? Regarde ce que tu prends, regarde ce que tu laisses, des bonnes mauvaises choses. Pour certains, il y a beaucoup de mauvaises choses à quitter. Pour d'autres, c'est quelques bricoles, hein? Comme cela. Et puis, deviens père. Même si tu es une mère, hein? Vous avez compris. Hein? D'accord? C'est-à-dire, encourage l'autre à sortir de lui-même. La meilleure image que ça, je vois qu'il y a des petits-enfants ici, des bébés, là. D'accord? T'es en train de vivre ça sans le savoir. Quel âge est-là?
3 mois.
Il a vécu beaucoup de choses déjà. Hein? C'est terrible quand on la voit comme ça, que quand on lui dit qu'un jour il faudra qu'elle apprenne à quitter. C'est dur de pas. Hein? Il faut de l'humilité, de l'humilité, de l'amour. Hein? D'accord? Donc, à 8 mois, bon, c'est moi, hein? À 8 mois, l'enfant a besoin pour avoir sa propre vie, pour avoir sa propre existence, pour devenir lui-même, d'être séparé de la mère. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre la mère à nos côtés, l'enfant de l'autre, mais de pouvoir sortir de ce lien fusionnel qu'il a avec la mère. L'enfant a besoin de cela. Si on ne le fait pas, l'enfant va se construire, je suis psy, hein, l'enfant va se construire avec des problèmes. D'accord? Or, aucune mère, aussi bonne soit-elle, chrétienne soit-elle, gentille soit-elle, et ce que vous voulez, n'est capable de faire sortir son enfant d'elle. Puisqu'elle l'a fait. Elle peut le faire sortir. Hein? Il faut que ce soit de l'extérieur d'elle, le père qui vienne, et qui lui dit, tu es mon enfant. Hein? Donc il prend l'enfant. Et d'ailleurs, hein, c'est symbolique, bien sûr, hein, mais regardez une mère à cet âge-là. Quand elle confie son enfant, même un peu plus tôt déjà, vous allez vous reconnaître, hein, à son mari, donc au père de l'enfant, hein, elle lui confie pas, elle lui prête. Hein? Elle lui prête. Il est à moi. Attention, ne fais pas tomber. Parce que nous, les hommes, gros débiles que nous sommes, hein, hein, pas malins que nous sommes, hein, on n'a rien compris à l'histoire. Hein. C'est sûr qu'on va prendre l'enfant et le jeter par terre pour un plaisir, rien que pour s'amuser comme ça. Hein, parce qu'on joue au foot, donc on peut jouer avec l'enfant. On a quand même un tout petit peu de... Hein, un tout petit peu quand même, hein, d'accord. Mais tu ne pouvais pas empêcher une mère de dire à son mari, quand il prend le gamin, attention, sa tête. Ah, j'ai pas compris qu'il avait une tête. Hein? Hein? Et si par hasard le mari, qui est le père de l'enfant, et je crois qu'il aime aussi, hein? D'accord, hein? Même s'il n'a pas fait, il aime, hein? D'accord, hein? Il commence un petit peu à le... Aïe, 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 hein? Vous suivez? Aïe, 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 Le rôle du père, c'est de dire à l'enfant qu'il existe en dehors de sa mère, qu'il peut devenir lui. Tu as parlé de la mère et du père tout à l'heure. Vous savez que Dieu nous aime comme une mère, d'accord, c'est vrai. Mais notre vraie mère, celle qui nous a engendrés, c'est la terre. Nous sommes poussière et nous retournons à la poussière. C'est la terre. Qui va nous donner la vie? Qui va venir nous sortir de nos racines luciliennes, je sais pas si c'est comme ça, hein, d'accord? De nos racines naturelles, pour nous faire entrer dans cette marche vers nous-mêmes, nous créer en nous disant, viens, sors. Ça ne veut pas dire renie ta mère, mais sors d'elle. Regarde-la différemment. Il nous faut une parole qui vienne d'ailleurs. Ça ne peut pas venir de la terre, cette parole. La mère ne peut pas dire à son enfant, va-t'en. Elle le regarde marcher, elle le regarde revenir. Mais aucune mère ne peut faire ça. Pas parce qu'ils sont méchants, c'est pas leur capacité. Hein? D'accord? Mais il faut le père. Et cette parole qu'Abraham reçoit, l'air l'aira, va vers toi. Dieu me dit, j'ai une place pour toi. C'est ça l'ascension. J'ai une place pour toi. Sors. Sors de ta famille, sors de ton pays, hein? Sors de ta patrie, de la maison de ton père. Deviens toi-même. Et c'est une parole de père qui nous prend, qui nous amène dans un voyage. On ne va pas renier sa mère pour ça, hein? D'accord? Mais c'est elle qui nous fait vivre. C'est elle qui nous fait vivre. Abraham va comprendre cela, il va se mettre en marche. Il va quitter. Mais le bébé qui quitte sa maman pour aller dans les bras de son papa, est-ce qu'il s'ampute? Non. Hein? Il quitte pour grandir. Il ne quittait pas pour abandonner, il ne quittait pas pour perdre. Il ne quittait pas en s'amputant. Il quitte pour grandir. Et nous sommes communistes des fois. Nous croyons que grandir, c'est nous amputer. Comme pas grandir sans perdre. J'ai quitté mon enfance. Il y a un peu plus longtemps que toi. D'accord ? Je n'ai pas perdu mon enfance. Il y a toujours un enfant qui vit en moi, qui se réjouit et qui souffre. Je n'ai pas perdu mon enfance. Elle est là. Bien sûr qu'elle est là. Vous voyez, Abraham, c'est ça qu'il a compris. Sa place, elle est dans un voyage qui, pas seulement tourner sur la terre, pas sur la terre, hein, voir beaucoup de paysages, c'est pas ça le problème, il en verra beaucoup, mais ce voyage vers lui-même, cette terre qui est lui-même, parce qu'il a entendu la parole du Père, que ce soit comme Paul, que ce soit comme Pierre, que ce soit comme Timothée, je suis en marche ce matin, vers moi-même, parce que Dieu m'a préparé une place, la mienne. Amen.